Bien le bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui encore, nous voici rassemblés autour de la parole de notre Seigneur pour partager son enseignement. Aujourd'hui, je vous invite à aller à la rencontre de Jésus, comme cette foule qui a entendu parler de Jésus, accourt, sort de toutes les villes et vient rencontrer Jésus. Alors j'aimerais, pour la petite mise en scène, que nous fermions les yeux quelques instants, que nous ne voyons rien de ce qui se passe autour de nous, et que nous nous imaginions comme toutes ces personnes sortant de notre village, de notre ville, de notre maison, pour aller rencontrer Jésus. On s'avance le long du chemin, et au fur et à mesure que nous nous avançons, nous entendons la voix de Jésus s'élever. C'est vrai, Jésus, il est venu il y a bien longtemps. Mais Jésus fera partie à jamais de nos souvenirs de son passage sur cette terre. Jésus avait dans ce texte autour de lui quelques milliers de personnes. Et on peut lire ce texte, mais quand on s'en imprègne, il y a quelque chose qui m'a interpellé, et plus particulièrement, effectivement, en préparant ce message, c'est quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Jésus aima la foule. Chacun en particulier, selon ce qu'il était, sans distinction. Je ne sais pas si la réciprocité était forcément évidente. Certains sont sûrement restés pour l'écouter, d'autres n'ont rien compris. Enfin, certains autres sont repartis. Mais le message du pardon et du salut fut adressé à tous et Jésus guérit les malades. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons encore à sa rencontre pour nous nourrir de son enseignement. Qui mieux que Jésus peut nous enseigner ? Alors, ayons suffisamment d'imagination pour réaliser qu'ayant entendu parler de la présence de Jésus dans les environs, nous aussi nous nous pressons pour venir l'écouter. Et nous sommes là, devant Jésus, pendu à ses lèvres, au grand air. Mais cela pourrait être aussi n'importe où ailleurs que d'entendre la parole de Jésus. Aujourd'hui, j'ai la responsabilité de vous transmettre, de parler au nom de Jésus pour annoncer la bonne parole, la bonne nouvelle encore aujourd'hui. Et nous écoutons Jésus, et le temps passe inexorablement. Mais quelle heure est-il ? On n'avait pas de montre à cette époque-là, mais on voit le soleil s'avancer dans le ciel et décliner au fur et à mesure. Peut-être qu'on commence à être tiraillé par la faim. Peut-être que je n'ai pas encore eu le temps de faire cuire mon repas. J'ai mille choses à faire dans la journée, mais je ne peux me détacher des lèvres et je ne peux me détacher du son de la voix de Jésus et surtout de son enseignement. Peut-être même je suis fatigué, mais je suis là comme si plus rien ne me détourner de cette parole merveilleuse. Et Jésus continue à parler. Combien de temps a-t-il parlé ? Jusqu'au soir. Vous savez que là en ce moment, vous m'écoutez, du moins je l'espère, il est dit que notre attention, selon les études, notre faculté à nous concentrer dans l'écoute ne décline au fur et à mesure au bout de 30 minutes. C'est-à-dire que si je dépasse les 30 minutes, vous n'allez plus m'écouter. Alors, effectivement, ça dépend des facultés de chacun. Mais imaginez combien de temps la foule a entendu parler de Jésus, a écouté Jésus. Et puis reprenons Matthieu 14, à partir du verset 15. Mais Jésus n'en finit pas de parler, ses paroles sont captivantes, sont poignantes, sont vraies. Et le soir étant venu, bien sûr, les disciples s'approchent de Jésus et lui disent « Seigneur, ce lieu est désert et la foule est là depuis des heures et ils n'ont rien à manger. Il faut que tu renvoies la foule parce que qu'est-ce que l'on va faire ?» Donc tout de suite, le matériel reprend le dessus. Les disciples veulent que Jésus renvoie la foule dans les villages pour s'acheter des vivres. Alors quelques milliers de personnes quand même on parle, hein. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Ils sont là, qu'ils restent là. Et vous là, mes chers disciples, vous qui m'accompagnez, qui me suivez, ben donnez-leur à manger. Vous imaginez, on peut facilement imaginer la tête déconfite des pauvres disciples en se disant, quelques milliers, mais quelle quantité de nourriture faut-il ? Mais donc ils disent à Jésus d'une manière sûrement impuissante, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Jésus leur dit, mais c'est très bien, même sous-entendu, même si vous n'aviez qu'un pain et qu'un demi-poisson, apportez. Jésus fit asseoir la foule, il prit les 5 pains, les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, les rendit grâce. Puis il rompit les pains et donna aux disciples. Allez, distribuez, donnez à manger à cette foule. Moi, j'ai nourri la foule avec mes paroles. Mais il faut aussi que l'homme se nourrisse de pain. Alors vous connaissez la suite, hein ? Tout le monde a mangé. Il est même écrit que certes, tous ont mangé, parce qu'on peut manger une petite miette de pain et quelques miettes de poisson. Non, la foule a été rassasiée. C'est-à-dire que chacun a mangé en quantité. Alors là, la foule qui avait faim s'est retrouvée repue. J'avais faim et cela est naturel d'avoir faim. C'est un besoin physique, c'est un besoin essentiel. Et là, on voit que quand Jésus est là, un miracle peut en cacher un autre. Il a guéri les malades et il a nourri la foule. Jésus montre que le peu que nous avons, imaginez si nous avions juste une miette de pain, le peu que nous avons, Jésus peut nous combler, peut nous remplir, peut nous rassasier. Et quelle satisfaction, l'on sait que lorsque on a l'estomac plein. Puis Jésus renvoie la foule. Enfin, il renvoie la foule pour qu'elle se repose et que lui-même poursuive son travail. Jésus se rend dans d'autres endroits et monte sur la montagne, comme Jésus aimait le faire, pour s'isoler, pour prier, pour se mettre en relation avec son Dieu, avec Dieu. Puis Jésus vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha encore de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds, et il les guérit. Encore une fois, je pense que Jésus a été ému de compassion pour cette foule. Il a aimé toutes ces personnes qui étaient devant lui. Et quand Jésus dit qu'il nous aime, c'est tellement profond, c'est tellement vrai, c'est tellement fort. Je voulais glisser une phrase dans le message. Je dis, il faut que le Seigneur qu'elle puisse rester à ma pensée. Vous savez, les artistes, ils aiment bien la foule, hein, parce que c'est bon pour le business. Alors les artistes disent, oh, je vous aime. Mais oui, Vous êtes mon porte-monnaie. Mais par contre, il ne faut pas les déranger. Il y a une artiste, dont je ne citerai pas le nom pour ne pas te faire de pub, hein, qui a été scandalisée parce que les Français, elle a dit, les Français sont fous. Parce que certaines personnes ont entendu qu'elle venait sur Paris et se sont précipitées pour la voir. Et elle se plaint. Quelle honte. Quelle honte. Alors, dans ce texte que je suis en train de lire, Jésus dit encore « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. » Vous imaginez si je ne m'arrêtais pas et je vous gardais 3 jours avec moi. Formidable. Enfin, mon patron, je ne sais pas s'il serait d'accord. Le vôtre non plus. Mais imaginez, est-ce que vous resteriez? On se dit, on se donne rendez-vous et on reste 3 jours ensemble à partager la parole de Dieu. Et Jésus a encore nourri une foule d'au moins 4000 hommes. Parce qu'à l'époque, on ne comptait que les hommes, sans compter les femmes, plus les enfants. Par 2 fois en peu de temps, le miracle s'est reproduit. Et malgré cela, certains, dont les disciples, dont ceux qui étaient à côté de Jésus, ne se sont même pas aperçus que Jésus accomplissait des miracles. Que Jésus était capable de peu, avec peu, de faire beaucoup. Leur incrédulité s'est maintes fois répétée aux disciples. Souvenez-vous, quand Jésus marche sur l'eau pour aller à leur rencontre, ils pensaient que c'était un fantôme. Quelque temps auparavant, Jésus avait enseigné ceci, dans Matthieu 6, verset 25. C'est pourquoi je vous le dis, c'est pourquoi moi, Jean-Michel, je vous le dis aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. Ça me fait penser à mon épouse, mon Dieu. Elle n'a jamais rien à se mettre sur le dos. Elle cherche toujours dans l'armoire quelque chose qu'elle n'aurait peut-être pas encore porté. Je dis, mais chérie, regarde tout ce que tu as. Et Jésus dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Bon, en ville, on les voit peut-être moins, mais regardez les oiseaux du ciel. Est-ce qu'ils ont un champ pour faire pousser du blé? Est-ce qu'ils ont de l'argent pour aller acheter du pain? Ils n'amassent rien dans des greniers, ils n'ont rien. Et votre Père céleste les nourrit, dit Jésus. Et vous, ne valez-vous pas plus qu'un oiseau? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Personne. Personne. Cela ne sert de rien de s'inquiéter. Combien de fois dans sa parole Jésus nous affirme de ne pas nous inquiéter d'aujourd'hui, de demain et de l'avenir? Jésus s'occupe d'aujourd'hui. Là, il s'occupe de nous en cet instant. Et il va s'occuper de nous l'instant d'après. Et puis l'instant d'après, puis cette nuit, et demain, et les jours qui viennent. Ne connaît-il pas toutes choses? Ne sait-il donc pas de quoi nous sommes faits? Bien sûr que si. Nos inquiétudes devraient-elles se résumer à des besoins physiques? Le manger, le vêtement, le paraître. Avons-nous le désir de prendre soin de notre âme? Rencontrer Jésus, Qu'est-ce qui se passe lorsque nous rencontrons Jésus? Qu'est-ce qui a fait que la foule est allée à la rencontre de Jésus? Bien sûr, il y avait les boiteux, les infirmes que Jésus a guéris, mais il n'y avait pas que des boiteux et des infirmes. Il y avait des personnes qui étaient mal intérieurement, dans leur pensée, dans leur esprit. J'ai la chance d'avoir un jardin, et c'est vrai que j'aime beaucoup regarder les oiseaux. Et eux, ils aiment aussi beaucoup me regarder, mais cachés derrière les feuillages. Alors, on les voit traverser le jardin, et puis ils volent par-ci, par-là, se posent, repartent. De temps en temps, je leur donne du pain, et puis quand les conditions climatiques sont un peu plus difficiles, quelques petites boules de graisse, un petit peu d'eau, même en hiver. Donc là, je vois d'un seul coup, alors qu'il n'y avait personne, sur mes talons, je ferme la porte, et une cinquantaine d'oiseaux s'abattent sur la nourriture. On dirait qu'ils étaient derrière à m'observer, vous voyez. Et ça m'est même, hein, j'ai même pu constater que parfois ils osaient même venir taper sur la porte-fenêtre, j'imagine pour réclamer à manger. Ils ont besoin de moi. Ils ont besoin que quelqu'un leur apporte des soins. Et c'est peu ce que je leur donne comparé à ce que Jésus peut nous apporter. Jésus nous dit dans sa parole, dans Matthieu chapitre 10, versets 29 à 31, « Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés, parfois plus ou moins, hein. Ne craignez donc point, vous valez plus que, pas un passereau, que beaucoup de passereaux. Ne valons-nous pas plus que ces quelques oiseaux que nous nourrissons? Et puis Jésus a cité, dans Matthieu 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » La nourriture est bonne et nécessaire pour le corps, pour la vie terrestre. Mais se nourrir de la parole de Dieu, par la lecture de la Bible, croire en ses promesses est indispensable pour notre âme, pour notre vie spirituelle, pour maintenant et pour l'éternité. Nous savons tous que notre corps passera. On laissera nos bijoux, nos cravates, nos costumes, nos jupes. On laissera nos kilos, en moins ou en trop. On laissera tout. Mais notre âme, elle vivra éternellement si nous sommes allés à la rencontre de Jésus. Il me faut avoir cette assurance. J'ai l'assurance que je suis sauvé. En parlant d'assurance, avez-vous fait le point sur toutes les assurances que nous possédons pour prendre soin de tous les domaines de notre vie? Il y en a un paquet d'assurances pour se protéger. Assurance contre le chômage, la maladie, la vieillesse, il suffit que vous regardiez votre fiche de paye, ça fait peur. Assurance pour la maison, pour la voiture, pour l'assurance scolaire, assurance décès, invalidité, contre la perte ou le vol des papiers, des clés, des moyens de paiement et j'en passe et d'autres. Mais quelle est? Est-ce que il me faut qu'une seule assurance? Celle que je peux avoir passée, souscrite avec mon Dieu. C'est la seule assurance dont j'ai besoin. Est-ce que je fais confiance à Dieu pour cela? Est-ce que j'ai cette assurance? Parce que si j'ai cette assurance avec Dieu, je ne serai jamais déçu. Et en plus, vous savez, l'avantage numéro un, vous savez, quand il faut de la publicité, les assureurs, voilà, en un, c'est 100% remboursé. Et avec Jésus, c'est 100% gratuit. Amen. C'est 100% gratuit. Il n'y a pas besoin de renvoyer son chèque. Il n'y a pas besoin d'être prélevé. Dans Romains chapitre 8, versets 38 et 39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses qui arriveront demain, ni les puissances, ni la profondeur, ni la hauteur, ni aucune créature, c'est-à-dire rien, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Christ notre Seigneur. » Jésus a eu compassion de la foule. Jésus a compassion de nous. Nous sommes dans la compassion de Jésus. Est-ce que nous avons encore besoin, comme certains incrédules, ils sont même cités dans la Bible, qui demandent encore à Jésus, fais encore un miracle. Là, on commence à croire, mais on doute quand même un peu. Fais-nous un autre miracle. Jésus dit, arrêtez, stop. Miracle, vous en avez. Ouvrez les yeux. Ouvrir les yeux est un miracle. Entendre est un miracle. Voir est un miracle. Sentir est un miracle. Quand Jésus a laissé la foule après l'avoir nourri, que s'est-il passé ? Ces milliers de personnes n'ont pas, en tout cas, n'ont pas pu oublier que leur estomac était rempli. Ça, c'est sûr, physiquement, personne ne pouvait dire « je suis reparti, j'avais faim ». Ça, c'est sûr. Mais pour le reste, qu'en était-il au niveau de leur âme ? Vous savez, c'est comme la parabole de la bonne semence, selon la terre dans laquelle elle tombe. Moi, je dis, ne vous inquiétez de rien. Peu importe les assurances que j'ai ici-bas, aucune de ces assurances ne me garantira l'accès au ciel, l'accès au paradis. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous avons parlé du grand abîme qui, une fois que nous avons fermé les yeux, nous sommes soit d'un côté, soit de l'autre, il n'y a pas de passage entre les deux. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Rencontrer Jésus et après. Nous en parlerons la semaine prochaine. Rencontrer Jésus et après. Nous verrons quelle importance, ô combien est important de rencontrer Jésus. On peut rencontrer une personne, mais qu'est-ce qui se passe après ? On peut rencontrer une personne pour se tourner le dos, après. On peut rencontrer une personne pour s'unir avec elle. Rencontrer Jésus, et après. Que Dieu bénisse sa parole. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Amen.